7h34 au FM 93, on lui parle normalement en différé, c'est-à-dire que l'entrevue avec Marc Durand, elle est préenregistrée plus tôt le matin et diffusée dans l'émission de Myriam durant l'après-midi. Mais là, on a la chance de lui parler en live. Et ce que ça donne, c'est que si vous avez des questions à la maison que vous aimeriez qu'on pose à notre ami journaliste sportif Marc Durand, vous pouvez les texter au 25226. Ça nous fera plaisir de lui transmettre les questions en live.
François, oui? Il est où Marc Durand?
Pour téléphone. Tokyo! Tokyo! Marc Durand, bon matin!
Bon matin tout le monde.
Je m'attendais pas à un Tokyo.
Tu sais pourquoi on fait ça préenregistré avec Myriam, hein?
Pardon?
Est-ce que tu sais pourquoi on fait ça préenregistré?
Ben, probablement parce que tu dors à ce moment-là.
Non, parce que je fais trop d'erreurs. Fait que là, vous allez vivre avec mes erreurs, d'accord?
C'est aucun problème avec ça. D'ailleurs, tu sais, je pensais que tu dormais. Quand je t'ai écrit cette semaine pour te demander, on se parle-tu dimanche matin, j'ai fait un calcul mental. Je me suis dit, il doit être comme 5h du matin chez eux. J'espère que je le réveille pas.
Ah ouais, ouais. Mais c'est des heures bizarres, effectivement. On dort tôt. Je me lève tôt. Je me couche tard. Je dors l'après-midi. On essaie de s'arranger parce qu'il y a des apparitions radio et des textes pour le soleil aussi. Puis des épreuves aussi sont faites pour les Nord-Américains, là. Actuellement, c'est des qualifications de 100 mètres. Alors, il est, 20h36 ici. Et puis, je sais pas quelle heure il est, quoi, il est 7h36 chez vous.
Ouais.
Alors, là, André DeGrasse, je sais pas si vous l'avez regardé, là.
Non, on l'a pas regardé.
Il vient de courir.
Puis, c'est qu'est-ce que ça a donné?
9,91, son meilleur chrono en carrière.
Wow!
Dans une qualification.
Wow!
C'est une surprise, là. J'écoutais Bruny Surin, j'en ai parlé ce matin, il était au même hôtel que moi, Bruny, il disait, André, ta plus rapide de course cette année, c'est 9,99. Il fait du 10,14, 10,13. Oh, je pense que ses chances sont meilleures aux 200 mètres. Il pensait même pas aux 100 mètres. Actuellement, il a le deuxième meilleur temps. 9,91. André DeGrasse, c'est un gars des grandes occasions. Il a toujours été comme ça. On joue Paname en 2015. Après ça, le championnat du monde. Après ça, les Jeux olympiques à Rio, on le sait, avec ses bagarres, Usain Bolt et lui. Il a fait la même chose. Dans les 10 derniers mètres de la course, là, il était en avant, puis il regardait à gauche, puis il a fait un grand sourire. C'est devenu presque sa marque de commerce maintenant.
Oui, mais alors, je me rappelle d'une course qu'il avait faite. Je me rappelle d'une course qu'il avait faite avec Usain Bolt. Puis, tu sais, c'était genre pas longtemps avant que Bolt prenne sa retraite ou qu'il se retire. Puis, Bolt était assuré de gagner, ou à peu près. Mais dans les derniers mètres, là, il trippait un peu moins parce que DeGrasse, il le rattrapait, là.
Ah oui, mais c'était la demi-finale ou la qualification.
Oui, c'est ça.
Puis Bolt avait commencé à ralentir, mais l'autre aussi, c'était comme il se regardait en disant, OK, c'est bon. Finalement, ça avait été 1 et 3 à la finale du 100 mètres. Bolt, Tyson Gay, je me rappelle bien, ou en tout cas, c'est un Américain, deuxième, et DeGrasse, troisième. Ça avait été vraiment intéressant. Mais tout le monde a pensé qu'après, le prochain, c'était DeGrasse, mais il n'a jamais gagné de course, ou à peu près, après les Jeux de Rio. Il était blessé, des pauses, troisième, puis là, regarde, ça veut pas dire qu'il va gagner, mais ça annonce bien et c'est déjà demain. Ça va se passer après ça, les demi-finales et les finales demain. Et j'aurai la chance, là, je sais que vous avez déjà dit, mais j'aurai la chance d'être présent. Vous allez dire, ben, comment ça, t'es jamais allé avant? Non, parce qu'habituellement, la finale du 100 mètres, c'est extrêmement contingenté. Okay. Il y a seulement les détenteurs de droits télévision, par exemple, qui y vont, puis seulement quelques journalistes tirés au volet. Alors, j'avais jamais eu la chance d'aller au 100 mètres. Mais là, demain, je serai là, en espérant que DeGrasse sera également.
C'est impressionnant, par exemple, un 100 mètres, parce que ça passe tellement vite, là. J'écoutais les commentateurs tout à l'heure, puis je me rappelle pas quelle course je regardais. Je la regardais du coin de l'œil. Sauf que le commentateur, il arrête. Tout de suite après, il fait comme, eh bien, voilà, un temps de 10-23. Ça passe vite, hein, une course. Tu sens qu'il y a comme, il a manqué de jus. Il sait plus quoi dire, parce que ça a passé trop vite. Il n'y a pas eu une pause assez longue.
Ben, je me rappelle un commentateur que je n'aimerais pas il y a plusieurs années. Écoute, t'as 10 secondes. Fait que t'as 8 coureurs. Il y a des fois 2 ou 3 coureurs qui ont le même chandail parce qu'ils sont du même pays. Mettons la Jamaïque. Mm-hmm. Puis là, ça part. T'es mieux d'avoir fait tes devoirs avant, d'avoir écrit sur une feuille le chiffre 1 à 8.
T'es mieux de connaître la coupe de cheveux par cœur.
Exact. Il s'est trompé tout le long. Puis là, c'est resté. Là. Alors, pour les archives dans l'histoire, pour les 100 prochaines années, on va entendre le commentateur se tromper tout le long pendant 10 secondes. Mais ça, c'est comme ça.
Mais c'est ça. Alors,
faut faire nos devoirs.
C'est ça, c'est un quoi ne pas faire pour tout le monde dans le domaine du sport, mais spécialement les commentateurs sportifs qui ont, tu sais, qui ont pas le droit à l'erreur, là, quand tu fais du live comme ça, là, ça ne pardonne pas.
Ah, non, mais ils se préparent des mois à l'avance et puis après la prononciation de chaque nom, et ils sont bons, ils travaillent fort, puis c'est correct. Il faut le faire aussi. Alors, on n'a rien à envier à nos amis anglophones ou aux Américains de ce côté-là.
Hey, se préparer des mois à l'avance. J'arrive ici au studio, je ne sais même pas ce que je vais faire dans la prochaine émission. Je comprends pas le concept de se préparer à l'avance.
C'est ta force.
Hey, Marc, se passe quoi avec les hommes?
Ben, tu vois, je parlais de DeGrasse, là. Ça, c'est, ça en est un, ça, qui devrait gagner une médaille. En athlétisme, on devrait rétablir quelques... c'est ça, on devrait avoir quelques médailles du côté masculin. Hier, Mohamed Ahmed, au 10 000 mètres, finit sixième, jusqu'à la fin, était troisième. Alors, il va se reprendre aux 5 000 mètres. Mm-hmm. Ivan Duffy, un marcheur olympique, 50 km, il est favori pour un podium. Alors, un des favoris pour un podium. De quoi je l'ai dit. Et Damien Warner, qui est en décathlon, l'épreuve la plus folle, sur 3 jours, 10 épreuves, une après l'autre. C'est intense, mais c'est le meilleur au monde. Alors, ça, c'est également une médaille qui est attendue pour le Canada. Il ne devrait pas avoir de femmes du côté féminin en athlétisme, mais on parle ici de 5, de grâce, 2 épreuves, le 5-200, plus 3 autres hommes, donc 5 médailles potentielles en athlétisme. Sinon, effectivement, ça va être difficile, mais on s'y attendait, hein. On pensait à peut-être à 25 médailles pour le Canada. Mm-hmm. J'avais dit environ 5 pour les hommes. Antoine Valeur-Fortier était parmi ceux qu'on avait placés sur un potentiel podium, mais c'est plus difficile un peu. Il y a eu le relais à 400 mètres qui a surpris. Les Canadiens ont fini quatrième. Ça, c'était vraiment pas prévu. Ça a été une très belle course. Mais malheureusement, c'est ça. Écoute, tant mieux pour les femmes. Ça veut dire qu'au Canada, on développe bien le sport au féminin. On développe mieux que plusieurs pays. Chez les femmes, ça va mieux. Chez les hommes, effectivement, il y en a qui parlent de vagues. Moi, je pense qu'il y a des questions à se poser. Je pense que le Comité olympique canadien, à nous le podium, les organismes de Sport Canada doivent commencer à regarder un petit peu des solutions. On doit commencer à penser à ça.
Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'athlètes féminines cette année? Je crois que c'est 60-40. 60% de femmes, est-ce que je me trompe?
Clairement, absolument. Oui. C'est le cas pour plusieurs pays aussi très très bien développés. Mais le Canada a depuis plusieurs jeux un plus de femmes que d'hommes. Et le pourcentage de médailles, c'est environ 75-25. Et là, on parle des Jeux du Commonwealth, Jeux de la francophonie, Jeux Paname, Jeux olympiques. On a toujours plus de succès du côté féminin. On inscrit beaucoup plus d'équipes également. Là, on a le volleyball masculin, le waterpolo masculin était là, le rugby masculin était là. Le rugby et le water polo, on n'a pas été d'un coup. Volleyball, par contre, avec Gino Brousseau, qui est entraîneur adjoint, coach en chef de Rougéa, ça va bien. 2 victoires, 2 défaites. On joue contre la Pologne du côté du Canada demain, donc ce soir pour vous. Et ça va clore la période de qualification. Si jamais ça se passe bien, puis il y a des chances, ils vont passer en ronde des médailles. Et ce serait tellement une bonne chose pour le volleyball masculin, le volleyball tout court au Canada, qui en arrache un peu, surtout au Québec, on commence à avoir de moins en moins de joueurs. Et c'est tellement un sport, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le fun à voir.
Ah, c'est tellement un beau sport, j'en ai décrit au Rouge et Or, justement, là, avec. Oui. C'est absolument spectaculaire à regarder, là. C'est spectaculaire. Wow. Je pense qu'on sous-estime tellement ce sport-là. Je comprends pas qu'il soit pas plus populaire. Je veux savoir, Marc Durand, étais-tu à la course de Kylie Mass hier? Ou plutôt aujourd'hui, en fait, pour toi, c'est...
Ouais, non, c'est ça. C'était ce matin. Je l'ai vu, effectivement. J'avais assisté à son premier podium. C'est son deuxième. Qu'est-ce que tu avais comme question? Y a-t-il une question précise?
Mais as-tu eu la chance de lui parler?
Non, c'est ça. Mais j'ai quand même un mandat qui est un peu plus local avec le soleil. Okay. Je m'occupe surtout de couvrir les athlètes québécois. J'ai pas eu la chance de lui parler. Mais qu'est-ce que tu aurais voulu que je lui demande comme question, là?
Ben simplement, tu sais, elle a battu le record canadien dans sa course, savoir un peu comment elle se sentait par rapport à tout ça. Mais quand même deuxième médaille.
Elle est vraiment bonne. Ah ouais.
Oh, oui.
Ah oui, elle est bonne, puis elle va peut-être en gagner une autre dans le capitonnage. C'est demain ou après-demain, je ne me trompe pas. C'est probablement notre meilleure nageuse. Donc, Penny a bien fait jusqu'à maintenant, mais notre meilleure nageuse, la plus constante depuis 5 ans. Elle a gagné une médaille individuelle à Rio. Elle a tout raflé au Jeux du Commonwealth en 2018 en Australie. Elle performe bien au championnat du monde. Elle est vraiment très constante. C'est une athlète extraordinaire, effectivement. Puis, une bonne personne. Quand j'ai parlé à Catherine Savardel, elle me disait c'est vraiment quelqu'un qu'on apprécie tous. Alors, c'est un bel exemple, c'est une belle nageuse.
Qu'est-ce qui explique le succès du Canada en piscine comme ça? Je veux dire, au tout ski, les nageuses canadiennes qui gagnent, on dirait, une médaille à presque chaque course, j'ai l'impression. Là, il y en a peut-être plus que je ne vois pas. Là. Mais est-ce que c'est vraiment un programme qui est fort à ce point-là au Canada ou c'est des jeux qui vont bien?
Non, absolument. Le programme est fort, t'as raison. Une des raisons, mais c'est un entraîneur britannique qu'on a amené ici il y a quelques années, Ben Titley. Il est entraîneur-chef maintenant à Toronto, au Centre d'excellence. 14 des 20, là, j'ai pas le chiffre, 50% des athlètes ici en natation proviennent de ce club. Donc, c'est lui l'entraîneur. Okay. Il a une façon de faire. C'est lui qui a poussé Penny Alexiak, Taylor Rock également. Puis, certains succès avec le programme féminin, d'ailleurs. Le relais 4x200 mètres auquel a participé Marie-Sophie Harvey et Catherine Savard, ils ont fini quatrième. Il y avait 7 nageuses, donc 3 qui ont participé aux qualifications, puis ils ont remplacé par 3 plus rapides pour les finales. Le Canada a fini quatrième avec un record canadien, mais les 3 premières places ont battu le record du monde. 1, 2, 3. L'Australie, pas le record du monde, finit troisième, mais les deux autres Chinois, les Chinoises et puis les Australiennes ont battu aussi. Alors, c'est ça. Donc, le Canada a fini quatrième. Donc, tu avais 7 filles de très haut calibre pour nager, quelque chose qui en prend juste 4. Donc, on a vraiment une belle profondeur. Notre seule faiblesse, c'est en brasse chez les femmes, mais sinon, une des raisons aussi, c'est que Ben Titley et d'autres font beaucoup de, je dirais pas du maraudage, mais ils vont aller voir des gens jusqu'à l'âge de 10 ou 11 ou 12 ans dans les clubs locaux. Et ils vont commencer tout de suite à les préparer en disant, écoute, t'as un potentiel, reste dans ton club, continue à nager fort, écoute ton coach, puis l'équipe nationale t'attend peut-être. Fait qu'il y a des rêves qui se bâtissent très jeunes et ça se faisait pas avant. On attendait qu'ils arrivent à un certain âge, mais là, on les prend très, très tôt et on les motive. On devrait le faire au Québec un peu plus aussi.
Surtout quand tu vois Summer McIntosh à 14 ans, c'est peut-être pertinent d'aller les voir à 11, 12 ans soudainement.
Clairement. Puis les filles changent le corps, les femmes changent drastiquement à la puberté. Et c'est deux styles différents. Summer est encore un enfant, 14 ans. Penny, c'était un enfant à 16 ans aussi, parce qu'elle était très grande. Et puis, là, son corps a changé. Ça a pris 2 ou 3 ans avant de revenir au niveau qu'elle est. Elle n'est pas tout à fait au niveau de 2016, mais 5 ans plus tard, elle est encore capable. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et les filles plus jeunes, ben, si tu les prends très jeunes, tu peux leur donner cette confiance-là pour croire en elles et obtenir de bons résultats plus tôt et ensuite revenir plus tard.
J'aimerais s'en revenir un peu sur l'histoire Simone Biles, parce que c'est comme un des dossiers qui a fait parler beaucoup, beaucoup depuis quelques jours. Puis là, aujourd'hui, on apprend qu'elle déclare encore forfait là, pour les finales de dimanche, saut barre asymétrique. Je sais que à cause de la situation de la COVID cette année, t'as moins accès à jaser aux gens de Team Canada, un peu comme tu le voudrais. Mais est-ce que c'est quelque chose qui se jase encore? Puis est-ce qu'il y a un effet Simone Biles dans les conversations un peu partout chez les athlètes?
Clairement. Puis j'ai parlé de cette situation-là précisément à Catherine Savard et Marie-Sophie Hervé après l'épreuve du relais dont je parlais tantôt. Mm-hmm. Parce que ces deux athlètes-là de Québec, dont Marie-Sophie Trois-Rivières, Catherine Le Pont-Rouge, ces deux athlètes québécoises ont subi, elles aussi, des dépressions, des moments, des détresses psychologiques. Et Simone Biles, qui se retire en plein tournoi olympique, alors que tout le monde l'attendait, c'était la vedette, c'était la poster girl, et qui dit, écoutez, je suis pas bien dans ma tête, faut que je pense à mon corps, faut que je pense à mon bien-être avant la médaille. Ça a été comme un soulagement collectif pour tous les athlètes, et c'est ce que Catherine me disait, Marie-Sophie, c'est, enfin, c'est plus tabou de dire, je suis plus capable, ou je suis pas capable, ou j'ai mal. Ellie Black, la Canadienne, aussi s'est retirée des épreuves individuelles, parce qu'elle est blessée à la cheville. Personne a mis en doute sa blessure aux chevilles. Personne n'a dit que t'es une lâcheuse. Ben, Simone Biles, aux États-Unis, là, les réseaux sociaux l'ont inondé de d'obscénité en disant t'as lâché ton équipe, tu t'es pas une vraie américaine, t'es pas une vraie... Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires comme ça qui sont sortis. Alors que des détresses psychologiques comme ça arrive c'est arrivé à Michael Phelps, c'est arrivé à plein d'athlètes, et c'est arrivé à Simone Biles aussi. Alors oui, ça fait jaser. Mais je pense que ça fait jaser de la bonne façon. C'est triste. C'est très triste pour elle. C'est très triste pour n'importe quel athlète, mais que ce soit elle, justement, qui doit faire face à ça, puis qui l'avoue publiquement, qui se retire. Je pense qu'on vient de faire un pas à l'avant dans l'acceptation, dans le rôle. C'est important de prendre soin de son corps, mais c'est important de prendre soin de sa tête. Et les athlètes olympique, là. Ils n'ont pas 82 games comme les joueurs de hockey pour se justifier, hein. Puis ils se reprennent l'an prochain. Ils ont une fois ou quatre ans. C'est une pression qui est malade. Puis, il n'y a personne au monde, à part peut-être un astronaute ou un premier ministre, qui a autant de pression qu'un athlète olympique qui doit gagner une médaille.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, tu disais, on a eu c'est une conversation qui arrive, puis une conversation positive. Puis tant mieux qu'on l'ait en 2021, parce que je suis pas certain que dans des Jeux olympiques, il y a 12 ans, il y a 13 ans en fait, là, que ça aurait si bien passé que ça. Il y a un éveil collectif sur la maladie mentale, puis ou la faiblesse mentale, appelons ça comme on veut, là, mais les blessures psychologiques qui était pas là il y a plusieurs années, puis sans dire que ça fasse un précédent, ça crée nécessairement un précédent à la situation de Simone Biles, mais ça vient entre guillemets ouvrir la porte et dédouaner certains athlètes qui, une fois rendus avant leur compétition, vont se dire finalement non, moi aussi je le sens pas, puis Simone Biles l'a fait, ben écoute, ça passe un peu mieux, mettons.
Oui, puis ce qu'elle a subi, en fait, ce qui en parallèle à ça, mais c'est ce qui a causé aussi sa détresse, c'est qu'elle, je me rappelle pas du terme exactement, mais c'est qu'elle fait des twisties. Et ça, un twisties, là, c'est un terme anglais pour dire elle a perdu une notion acrobatique spatiale. Okay. Et donc, elle faisait des manœuvres, puis elle se rappelait plus du mouvement. Et semble-t-il que ça arrive, parce que j'ai déjà fait des reportages sur des athlètes comme ça qui n'ont jamais été capables de refaire les mouvements qui les avaient menés justement à un haut niveau. Puis on a des images, on la voit à l'entraînement, elle tombe à chaque fois sur des mouvements de base au bar asymétrique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'est retirée de ces concours-là. Elle s'est laissée une porte ouverte pour le sol et la poutre, je crois. Donc c'est particulier. Alors elle n'a pas risqué sa santé. Elle s'est dit non, moi j'ai un problème actuellement, c'est dans ma tête. Mais mes démons me poursuivent et je prends une pause. Mais effectivement, c'est bien ce que tu dis, François. Il faut absolument ouvrir ce discours-là et on le fait de plus en plus et c'est tant mieux.
Juste avant de te laisser, Marc, on avait une question qui a éclaté dans la tête de Myriam après qu'on ait diffusé votre entretien. Elle a parlé de ta course de taxi qui a coûté 400$, là, l'affaire épouvantable. Et il y a des auditeurs qui voulaient savoir, mais parce que c'est un continent complètement différent, c'est une mentalité complètement différente, puis c'est des constructeurs automobiles différents. C'est quoi le type de voiture que tu as vu le plus à Tokyo? Y a-t-il un constructeur que tu as remarqué plus que d'autres ou tu portes plus attention à la préparation de tes chroniques?
Alors, oui, mais c'est vrai que j'ai remarqué. Il y a beaucoup, ben écoute, Toyota, c'est toutes des japonaises. J'ai vu quelques Mercedes. Pas vu de Chrysler, j'ai pas vu de Caravan, j'ai pas vu de Ford Ranger. Il n'y a pas de grosses autos comme ça. Beaucoup de Toyota, beaucoup d'Honda, tout ce qui est Suzuki qu'on a pu, il y a encore ça. Puis Daihatsu, je pense pas, je connais pas ça, mais
Datsun.
Il y a des petits véhicules aussi, hein?
C'était-tu Datsun?
Non, Datsun, c'est Nissan.
C'est
l'ancien nom. Non, mais ça, c'est un nom que je connaissais pas, mais j'ai pas vu de Coréenne ici, j'ai pas vu de à part la Mercedes ou les Mercedes que j'ai croisées, quelques voitures de luxe aussi, Lamborghini et compagnie, là, mais ça, c'est vraiment spécial. Mais ils ont des voitures aussi, ça, j'ai pas les bons noms, j'ai pas vérifié, mais ils ont des voitures aussi qu'on peut pas acheter puis qu'on peut pas vendre au Canada, qui sont genre des 5 chevaux vapeur. C'est des voitures très économiques, mais ça ressemble à... C'est des voitures de 10 000$, 15 000$ à peu près, et c'est magnifique. Puis ça pollue pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de voitures électriques, ça, j'en ai pas vu. Ils sont vraiment en gaz encore, mais c'est ça. C'est des voitures japonaises ici, mon cher. Et ça, on n'est pas surpris. Ils sont très protectionnistes. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses que des Japonais au Japon. Puis il n'y a pas beaucoup d'autres choses que des Japonaises dans les voitures.
Mais merci beaucoup, Marc Durand. On se reparle demain à peu près à la même heure. Puis on va souhaiter que quand on se reparle demain, mais tu sais, je dis pas ça méchamment, là, mais j'aimerais ça, avoir des médailles masculines.
Ben oui, mais correct.
Ben écoute, The Grass va passer juste après, si je ne me trompe pas, là. Fait qu'on sera pas loin. Si c'est quelqu'un après la demi-finale, on sera pas loin. Écoute, tu voudrais-tu qu'on vive ça, on vive ça en direct, peut-être, là?
Ben nous, on risque de vivre en direct, là.
On peut essayer ça.
Ben oui, vous allez vivre en direct, fait. C'est ça, ben oui, t'as peu, là. T'as 31er août, ben, tout de suite. Attends une seconde, on est en direct, tu vois, avec Myriam, on aurait coupé ça.
Mais c'est correct. Moi, je m'en fous qu'on fasse des. Pas des erreurs, mais qu'il y ait de la recherche. Ça prouve que tu es un être humain, Marc Durand. Ça prouve que toi aussi, tu as des temps de réflexion qui sont nécessaires.
Oui, absolument.
Ça vous fait nous sentir d'être. Mieux, nous.
Écoute, 21h50, ça veut dire dans une heure à votre heure, à peu près. Donc, il est quelle heure? 7h54?
Ouais.
8h54.
Ben, écoute,
8h50 pile.
C'est bon, on s'arrangera, on se déplacera notre conversation d'une heure plus tard pour être capable de d'essayer de vivre ça en direct.
Ah, c'est bon. Mais là, je vais être au stade. Ça va
être bien. Ah, OK, ouais, non, c'est bon.
25 spectateurs.
Là, tu vois, là, c'est à mon tour
là,
de faire des erreurs.
On tiendra.
Ouais, c'est ça. On tiendra au courant, là, via Facebook. Là, on est amis, puis tout, là. Va te coucher.
On en jase. C'est bon. OK.
Mais, Marc Durand, merci beaucoup. À demain.
Salut, bye-bye.
Salut. J'avais pas pensé à ça, moi, qui était au stade.
Comme, ouais, c'est
ça, on va s'en jaser. Ben oui, il est au stade, innocent. Ah, mais il est toujours intéressant à jaser. Puis c'est vrai, j'aime beaucoup la partie de la conversation sur la santé mentale. Parce que, veux, veux pas, je peux pas dire partout ailleurs dans le monde. Évidemment, j'habite au Québec. Puis je connais la réalité québécoise puis canadienne. Mais c'est des conversations qu'on a eues beaucoup ici. Puis c'est probablement pas tous les pays puis toutes les cultures qui peuvent être avancées comme on peut l'être au niveau de l'acceptation des problèmes de santé mentale. Mais comme Marc nous expliquait, c'est dans le cas de Simone Biles, c'est quelque chose de spatial. Là. C'est de la coordination sur certains mouvements qui se perdent. Puis ça, tu veux pas te planter dans les Olympiques. Là. Tu t'entraînes. Puis c'est ça l'affaire. C'est, tu sais, quand tu commences à te tromper dans quelque chose que tu as souvent fait, puis que tu te replantes tout le temps à la même place, puis ça devient comme un obstacle parce que tu n'es plus capable de passer par-dessus, puis là, tu as la pression de recommencer à faire ce que tu faisais avant, puis tu es rendu aux Olympiques, tu n'as plus le droit de te tromper. Ça doit être épouvantable.
Les yeux du monde sont rivés sur elle, premièrement. Puis, en plus, avec les réseaux sociaux, tout le monde parle d'elle. Maintenant, sur Twitter, c'est la première à avoir son emoji. Surtout son emoji sur Twitter, elle avait ça. Là.
Ah ouais?
Quand tu faisais hashtag Simone Biles, il y avait un petit emoji d'une gymnaste.
Ah ouais?
Créé pour elle, spécialement par Twitter. Donc, les yeux du monde rivés sur elle, ça devait pas être facile. Là. Puis, elle devait se mettre une pression énorme sur les épaules.
Puis, tu sais, on a tous... Puis je parle ici en studio, mais je parle aussi aux auditeurs, les auditrices. On a tous des situations auxquelles, à un moment donné, on est confronté puis qu'on dit, là, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille de l'avant. Puis on va crever l'abcès.
Mm-hmm.
Ben, tu sais, quand t'es soumis à une pression aussi forte que les Olympiques, crever cet abcès-là, c'est d'autant plus difficile que t'as passé les 5 dernières années présentement, mais normalement les 4 dernières années, à te préparer pour cette épreuve ultime-là. T'as des commanditaires en arrière de toi, là. T'as des fans, t'as toute une machine à qui t'es en train de dire « Je file pas.
Mm. »
Puis Marc avait un très bon point, puis on le répète souvent dans plein d'autres situations. T'aurais un pied dans le plâtre que tout le monde comprendrait. Mais c'est très difficile de se mettre la tête dans le plâtre. C'est pas écrit dans la face de quelqu'un que t'as un problème. Puis surtout, tu sais, ça peut être un problème mental, ça peut être un problème émotif, ça peut être un problème de plein d'ordre psychologique, mais ça peut aussi être un problème physique. Si tu as fait un faux mouvement, puis ton équilibre est compromis, quand t'es athlète, on s'entend-tu que se blesser à l'équilibre, c'est assez dangereux aussi, là.
Surtout dans ce sport-là, là.
Mais c'est ça, fait
que... Même au niveau olympique, là, par exemple, les barres là, où ils tournent autour d'une barre, là, c'est difficile à expliquer, là, mais vous savez quoi je parle.
Les barres où ils tournent, les barres asymétriques, là?
Je pense que c'est ça.
Oui, c'est ça.
Mais non, barres asymétriques, c'est pas quand
ils
se tiennent des deux barres. Je parle de ceux où ils se tiennent à bout de bras. Là.
Ouais,
ils sont accrochés à une barre puis ils tournent autour.
Puis il y en a deux, l'une
par
la même hauteur
que
l'autre. Bon. Tu sais, comme genre les deux barres seraient asymétriques, là?
Je pense qu'on parle d'une autre, mais c'est pas grave. Peu importe. Mais ouais. Même au niveau olympique,
ouais.
J'ai vu des athlètes avoir des coachs venir les spotter en bon français, là, ouais. Venir surveiller, s'assurer qu'ils se plantent pas. Fait que même au niveau olympique, c'est dangereux au point que t'as besoin qu'un coach. C'est le genre de choses que tu dis, ah, ok, c'est normal pour les jeunes filles de 12 ans qui commencent puis tu veux t'assurer. Non, non. T'as ça même aux Olympiques. Fait qu'imagine si tu te blesses à l'équilibre.
Ouais, ça.
Une qui m'avait impressionné niveau force mentale il y a quelques années, et ça enlève rien à Simone Biles, là, c'est Joanie Rochette.
Ouais.
Lorsque sa mère était décédée et elle avait quand même remporté la médaille de bronze, moi, je comprenais pas. Elle est allée quand même faire sa compétition. Là. Je veux dire, elle s'est dit, je vais le faire pour ma mère. C'était un beau moment, ça. Hein?
Ah oui, c'était émouvant. Puis tu sais, t'avais la communauté olympique qui était au courant de la situation. Puis tu sais, quand t'es un je dis n'importe quoi, mais quand t'es un Français qui regarde une Canadienne qui a vécu ça, tu trouves ça émouvant. Mais il y a la fibre patriotique aussi, là. C'était une des nôtres, c'est une Canadienne qui vivait ça, là. Tu sais, honnêtement, là, un homme, ça broye pas. Sauf quand ça se pète le genou sur le coin d'une table ou quand ça voit Joanie Rochette gagner.